Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Bonjour Corinne Morel d'Arleux.
Bonjour.
Nouveau rendez-vous en 2017, de retour pour parler de ces sessions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dernière session du 9 février, compte rendu de mandat radiophonique avec vous. Une session, on le rappelle hein, aux auditeurs, c'est la première de l'année, mais il n'y en aura que 2-3 et terminée. Alors il faudra vous habituer à ce qu'on vous entende moins,
oui,
en tout
exactement.
Cas à notre micro. Merci encore d'être avec nous. Et puis pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, parlons de ces mobilisations et autres manifs qui ont lieu jusque dans presque l'hémicycle.
Oui,
tout
à fait.
Et dont on ne parle pas à la région.
Oui, tout à fait, parce qu'effectivement c'était un peu curieux cette session, parce qu'en en fait on a été accueillis par une manifestation devant l'hôtel de région, ce qui était plutôt pas désagréable, je dois dire, hein, puisque c'était les agents et les enseignants du lycée Récamier dans le Rhône qui étaient présents pour interpeller la région, puisqu'ils ont essayé de le faire par plein de moyens différents. Ils ont envoyé des courriers, ils ont fait une pétition, donc ils ont fini par venir carrément devant l'hôtel de région, puisque en fait c'est un lycée, comme il y en a d'autres dans la région, où on promet d'installer des caméras de vidéosurveillance, des portiques, etc. Mais par contre, dans lequel on laisse les murs se fissurer, les portes qui ne ferment pas, les fuites dans les locaux. Et depuis le début de ce nouveau mandat, eh bien, tout est bloqué. Ils ne reçoivent pas les subventions qui étaient prévues pour faire ces travaux de réfection. Donc évidemment, on les soutient et on soutient tous ceux qui sont dans le même cas et qui, dont la voix porte peut-être un petit peu moins parfois. Tout simplement pour dire que voilà, il y a des priorités dans nos lycées, et notamment pour que les lycéens soient dans de bonnes conditions de travail, tout simplement.
L'occasion peut-être de rappeler qu'en fait un lycée, bien qu'il dépende entièrement au niveau budgétaire d'une région, doit quand même justifier ses dépenses. Enfin, il y a une gestion un peu...
Alors en fait il y a plusieurs choses,
il y a
en fait ce qu'on appelle des dotations, c'est-à-dire que tous les ans effectivement la région dote les lycées d'une enveloppe qu'ils peuvent ensuite utiliser. Alors évidemment ils rendent compte, hein, ils peuvent pas faire n'importe quoi avec cet argent. Et puis ensuite il y a des dépenses un peu exceptionnelles, c'est ce qui est le cas de ce plan de réfection du lycée Récamier, qui est un lycée ancien et qui avait besoin de travaux. Ça avait été acté lors de la précédente mandature à la région et pour l'instant tout est bloqué.
Ces manifestations, c'est quelque chose de récurrent dans le hall
Alors, devant l'hôtel de région, c'est assez récurrent, effectivement. Je pense qu'il n'y a plus une seule session où il n'y a pas une mobilisation. La dernière fois, on avait les opposants à ce projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, et puis aussi des paysans qui étaient venus faire la jonction avec eux. En général, ça se passe donc sur le parvis qui est juste devant l'hôtel de région. On a droit, du coup, à des barrières qui sont installés avec un système de filtrage à l'entrée où il faut montrer sa carte d'élu pour pouvoir rentrer dans l'hôtel de région. Et puis là, cette fois-ci, on a eu une autre manifestation. Alors celle-ci un peu plus exceptionnelle puisqu'elle a eu lieu dans l'hôtel de région, dans le hall lui-même, puisque là, c'était une mobilisation des agents de la région, les gens qui travaillent dans l'institution, qui là aussi, depuis des semaines, des mois, alertent sur les conditions de travail, interpellent Laurent Wauquiez et la direction générale des services sur le fait qu'il y a des réorganisations mais avec très peu d'informations, avec pas mal de choses qui dysfonctionnent selon eux, et que là de la même manière ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas reçus. Donc ils ont manifesté avec de la musique au son de On lâche rien, carrément dans le hall de l'hôtel de région. Moi j'ai fait une petite vidéo de ça parce que c'était quand même assez surprenant et plutôt assez réjouissant, je dois dire. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est que nous, on s'est fait le relais, hein, puisqu'on était juste de l'autre côté des rideaux, de l'autre côté des vitres, par le biais de Monique Cosson, notre présidente de groupe, qui a quand même interpellé Laurent Wauquiez sur le fait que c'était quand même hallucinant qu'ils ne reçoivent pas les agents qui étaient en train de manifester. À ma connaissance, ils n'ont pas été reçus ce jour de session, alors que Laurent Wauquiez s'est absenté pour d'autres affaires en cours de journée, donc il aurait tout tout à fait pu dégager du temps ou prendre sur sa pause déjeuner, il me semble.
Des fonctionnaires, donc, là, qui font cette manifestation, hein.
Oui, tout à fait, des gens des services. Ouais.
Bon. Eh bien, voilà, bravo, très bien, c'est un bon patron. Passons à un autre sujet, celui du budget route face au budget TER, train express régional, hein. Les routes ne le sont pas forcément, je voudrais
transport
quand même le rappeler.
Transport express régional, parce que malheureusement, il y a de plus en plus de cars et de moins en moins de trains.
Ah, d'où l'intérêt donc de refaire les routes. Alors, vous avez voté pour plus d'argent pour les routes et moins pour les TER.
Ouais, enfin, nous, on n'a pas voté pour ça. On a même déposé un amendement pour inverser la tendance qui, malheureusement, a été rejetée. Oui, parce qu'en fait, on a voté... a été soumis au vote, plus précisément, un avenant au contrat de plan État-région, le CPER. Et dans cet avenant, on était plutôt assez contents au début puisqu'on a vu que les sommes affectées aux petites lignes, et notamment d'ailleurs la ligne Valence-Veynes est mentionnée comme étant une ligne à sécuriser, ce qui était plutôt une bonne nouvelle, avec une augmentation de 29% pour les TER. Donc on s'est dit, bon, ça va dans le bon sens, aurions-nous enfin été entendus. Sauf que, patatras, quand on regarde un peu plus attentivement, on voit qu'il y a une hausse de 29% pour les TER, mais il y a surtout une hausse de 700% pour les routes, avec une somme quand même de 154 millions d'euros supplémentaires pour les routes et seulement 25 millions pour les TER. Donc malheureusement, la priorité continue d'être donnée aux tout routiers, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes, que ce soit en termes d'environnement, de climat, de santé publique, de pollution, tout ce qu'on connaît par cœur, mais qui visiblement continue à avoir du mal à rentrer dans la tête de certains de nos dirigeants politiques.
Pour le contribuable régional, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai ou pas? La région n'a pas de route à elle. On a des routes nationales, des routes départementales, des routes communales, mais pas de route régionale.
Oui, tout à fait.
Donc, il n'y a aucun intérêt.
Il n'y a pas de route régionale et donc il n'y a pas d'intérêt régional ni de compétence obligatoire de la région à financer ces routes. D'ailleurs, jusqu'ici, on ne les finançait pas. Les seules qu'on finançait, c'est les routes d'Ardèche, puisqu'il n'y a pas de train qui circule et que là, les TER sont obligés d'emprunter la route, puisqu'il n'y a pas de train. Donc, c'était une exception qui faisait sens, évidemment, pour la desserte des usagers en Ardèche. Là, ce n'est pas le cas. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus, on va aussi sur d'autres dépenses qui ne sont pas obligatoires et qui, à notre sens, ne sont pas forcément prioritaires. Je pense, dans le département de la Drôme, à ce projet, ce serpent de mer qui est le projet de gare TGV à Allan. C'est un projet de gare TGV à 100 millions d'euros au bas mot, puisqu'on a aussi des estimations de Réseau Ferré de France à 230 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter des coûts de fonctionnement qui sont estimés à 25 millions par an, et sur lequel on a eu la surprise d'apprendre par la presse, une fois de plus, via une conférence de presse en préfecture de la Drôme. Je dois dire qu'en tant qu'élu de la Drôme, c'est toujours un peu compliqué quand même d'apprendre les choses par ce biais-là. On a appris donc que Laurent Wauquiez s'était engagé au nom de la région à mettre 15 millions d'euros dans ce projet de gare TGV. Alors qu'il y a déjà deux gares TGV à Valence et à Avignon, une gare en centre-ville de Montélimar, et que tout ça ne permettrait que de gagner 15 minutes sur un trajet de Paris, soi-disant pour permettre aux touristes de venir visiter la Drôme et l'Ardèche. Or, en réalité, ce ne serait pas plus près pour eux de descendre à Allan que de descendre à Valence TGV. Donc on est là vraiment typiquement sur un projet qui n'a pas de sens et surtout sur des questions de priorité d'argent public. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire des économies. On est obligé de pleurer pour récupérer parfois quelques milliers d'euros pour la survie de certaines associations. Et là, la région met 15 millions sur un projet dont l'utilité n'est pas démontrée. Donc là, on va financer à nouveau des études. Alors, des études, il y en a depuis plus de 15 ans hein, sur cette gare. Les dernières ont conclu qu'elles n'étaient pas pertinentes. Donc, on va refinancer des études encore et encore jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise qu'il faut la faire. Et puis là, c'est 100 millions d'euros d'argent public en tout, au bas mot, qui vont être dépensés pour cette gare. Ce qui paraît totalement fou quand on voit les besoins qu'il y aurait même localement dans le bassin montilien pour, au contraire, avoir de l'activité locale. pour booster l'emploi, l'activité. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets à financer, plutôt que de financer une troisième gare TGV, ce qui n'a évidemment absolument aucun sens localement.
On peut rappeler même d'ailleurs sur quelle ligne elle va se situer, puisque la gare de Valence TGV et la gare de Montélimar ne sont pas sur les mêmes lignes. Hein. La gare de Valence TGV, c'est la très très rapide. Et la gare de Montélimar, c'est l'ancienne qui est sur la ligne classique Lyon-Valence.
Voilà, d'où le décalage effectivement environ de 10 à 15 minutes sur un trajet entre ces gares et Paris.
Donc Valence sera sur quelle de ces deux lignes ?
Sur la rapide ? Elle sera sur la rapide.
D'accord.
Précisément.
Donc on peut aussi imaginer d'ailleurs que les trains qui s'arrêteront à Lens se feront aux dépens des trains qui s'arrêtaient déjà à Valence.
Absolument, c'est-à-dire que clairement, les trains qui s'arrêteront à Lens ne s'arrêteront plus à Valence TGV.
Voilà, ce sera soit l'un soit l'autre.
Tout à fait.
Bon. par contre, ça soulève une autre chose, c'est que cette gare TGV de Valence est au milieu de rien et de personne, là où elle aurait été peut-être mieux d'être faite tout de suite à Lens, en permettant au village de peut-être se développer autour.
Bon, ça, c'est
au lieu d'être au milieu d'un champ vide.
Ça, malheureusement, moi, on a déjà tellement à faire avec les projets futurs que je me hasarderai pas à refaire le passé sur lequel on n'a plus de prise. En tout cas, voilà, l'existant étant ce qu'il est, je crois que ces 100 millions d'euros d'argent public seraient vraiment mieux utilisés ailleurs.
Bon, voilà, c'était pour embrouiller un petit peu. Une gare TGV, ça embauche combien de personnes, vous savez ?
Aucune idée, non, ouais. Mais en termes d'effectifs permanents, ce n'est pas énorme.
Ouais.
Il y a un petit peu plus sur les chantiers, parce qu'il faut bien réaliser qu'une gare TGV comme ça, un peu au milieu de nulle part, c'est évidemment aussi des équipements et des infrastructures pour y accéder, c'est-à-dire des routes, des parkings, et que ces routes et ces parkings sont souvent confiés à des entreprises privées.
Oui. Qui embauchent massivement dans leur territoire d'action. On s'est bien connus. On change donc une nouvelle fois de sujet, Corinne Morel-Darleux, pour aller vers ce fameux plan neige. On n'arrête pas d'en parler, ça rebondit partout. La presse s'en est même fait écho. Y aurait-il conflit d'intérêts avec Monsieur Chabert ? Quoi qu'il en soit, la région continue et soumet au vote, là aussi, une augmentation de budget sur les canons à neige.
Oui, tout à fait. C'est la suite, effectivement, du feuilleton de ce plan montagne qui est devenu plan neige et qui finit en plan ski, puisqu'il y avait déjà eu 8 millions d'euros de votés sur de l'équipement pour de l'enneigement artificiel, que là, ils viennent donc de voter à nouveau 6,2 millions d'euros et que nous avons eu la confirmation en commission montagne de la part de M. Chabert lui-même que s'il fallait monter jusqu'à 30 millions, on monterait jusqu'à 30 millions, puisque c'était ce qu'avait annoncé Laurent Wauquiez en début de mandat. Et donc pour ça, on n'est plus sur des critères d'urgence et de vulnérabilité, puisque c'était ça au départ. Hein. L'idée, c'était de dire, voilà, il y a des petites stations de moyenne montagne qui sont en train de mourir, hein, qu'il faut aider avec cet enneigement artificiel. Donc là, en fait, on n'est même plus là-dessus, puisque ce que nous dit M. Chabert, c'est qu'à Noël, il n'y a eu de neige dans aucune station des Alpes, et que donc elles sont toutes vulnérables, et que de toute manière, il faut rattraper notre retard sur la Suisse et l'Autriche pour pouvoir afficher des pourcentages d'équipements supérieurs. Donc, besoin ou pas, ils sont en train de solliciter des dossiers de la part de toutes les stations, et donc d'accélérer cette espèce de fuite en avant sur l'enneigement artificiel. Et puis tout ça se fait effectivement sur fond de ce qui est en train de devenir une affaire Chabert, hein, puisqu'il y a eu effectivement une enquête du journal Acteur de l'économie qui est parue, qui confirme ce que nous soupçonnions et ce que nous avons dénoncé depuis des mois sur des soupçons de prise illégale d'intérêt entre les différentes casquettes de Gilles Chabert, qui est donc à la fois élu régional en charge de la montagne auprès de Laurent Wauquiez, mais également président du syndicat national des moniteurs de ski, qui était jusqu'à la semaine dernière administrateur de la Compagnie des Alpes. Il a au moins démissionné de ce mandat-là et qui possède également des parts dans un certain nombre de SCI, enfin voilà, qui a beaucoup d'intérêts liés effectivement au ski et un certain nombre de stations. Et il se trouve que le travail de ce journaliste, Didier Baird, a mis en évidence le fait qu'une part importante des 8 millions affectés à ce plan ski, 25% pour être précise, allait dans des lieux où M. Chabert avait des intérêts. Ça, plus le fait, je l'avais déjà dit sur les ondes de Radio Diwa, le fait que M. Chabert est appelé en tant que président du syndicat à voter ce plan neige et non pas en tant qu'élu régional. Enfin, voilà, il y a énormément de confusion et effectivement énormément de soupçons de prise illégale d'intérêt, à tel point d'ailleurs que, en attendant que la société civile se saisisse éventuellement de la justice, ce que j'appelle de mes voeux, parce que je pense que ce serait bien que ça vienne de la société civile, je me suis réservé le droit, quant à moi, en tant qu'élu régional au nom de mon groupe, de saisir le procureur de la République, comme c'est mon devoir d'élu, puisqu'il existe dans le code pénal un article 40 qui précise que, en tant qu'élu de la République, si nous avons connaissance de faits qui peuvent être délictueux, nous avons le devoir de les porter à l'information du procureur de la République. Nous allons donc le faire et porter ça à sa connaissance dans les jours qui viennent.
Est-ce que être administrateur de la Compagnie des Alpes, que je vais expliquer un peu aux auditrices, auditeurs, c'est tout simplement ceux qui gèrent les remontées mécaniques de à peu près 80% des stations de ski des Alpes, donc vivent avec ça. Est-ce que être administrateur de ce genre d'organisme sous-entend un retour direct en argent ?
Alors, comme la plupart des conseils d'administration, les administrateurs touchent ce qu'on appelle des jetons de présence quand ils viennent au conseil d'administration. Donc, y a ces jetons de présence. Après, il y a surtout des intérêts économiques très importants. La Compagnie des Alpes est une grosse structure qui ambitionne également de fonctionner à l'export avec la Chine et de faire en sorte que justement notre filière d'excellence alpine en matière de remontée mécanique et d'enneigement artificiel puisse servir de vitrine pour exporter notamment sur le marché chinois du ski qui est en pleine expansion. Donc il y a des intérêts économiques très puissants derrière toutes ces affaires de ski et de station.
Il faut d'abord expérimenter sur le terrain avant d'aller vendre ça ailleurs.
Tout à fait. Et puis, il faut pouvoir inviter les clients potentiels à venir tester et donc disposer de vitrines, effectivement, dans les stations des Alpes. Sur la Compagnie des Alpes, d'ailleurs, donc Gilles Chabert en a démissionné. Et il semblerait qu'il soit prévu qu'il y soit remplacé par Madame Montillet, qui est également élue régionale et qui est également une proche de Laurent Wauquiez.
Donc, on ne change rien. Mais avec une femme, ça passera peut-être mieux. Qu'est-ce que la société civile doit ou peut faire ?
En fait, à partir du moment où il y a eu deux articles dans Acteurs de l'économie, à partir du moment où ces articles sont publics et donnent un certain nombre d'arguments, de faits, etc., ils sont dans le domaine public. Ça veut dire que tout contribuable de la région peut se retourner vers la justice pour demander des comptes, notamment auprès du tribunal administratif, par exemple, sur l'utilisation de l'argent public, l'argent des contribuables, dès lors qu'il y a un soupçon que cet argent n'aurait pas été utilisé à bon escient, ni pour servir l'intérêt général, mais pour servir des intérêts particuliers. Donc, il existe des associations de type Anticor, Sherpa et autres. Il y a aussi des associations, donc ça c'est plutôt sur la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, etc. Mais il y a aussi des associations de contribuables. Il y a une association, par exemple, la COL, l'association des contribuables de l'Ouest lyonnais, qui s'est fait une spécialité de saisir la justice sur ce que fait la région et sur l'utilisation de l'argent public. Donc voilà, il y a plein de possibilités, en fait, effectivement, qu'il y ait des saisines de la part des citoyens, tout simplement, sur ce genre de soupçons.
Pour l'instant, ça n'a donc pas été fait ?
Pas à ma connaissance, non.
Et le simple fait qu'une enquête soit publiée, on le voit sur d'autres affaires au niveau national, ça ne fait pas bouger la justice ?
Ben, en tout cas, pour l'instant, à ma connaissance, le procureur ne s'en est pas saisi, raison pour laquelle on va attirer son attention.
Ouais.
Passons à cette question concernant les travailleurs détachés avec une clause Molière. Alors j'ai envie de le dire là, pauvre Molière, hein, puisqu'il n'a absolument pas demandé à ce que son nom soit utilisé pour qu'on parle bien français. Hein. C'est donc là cette exception. Parlez-nous de ces travailleurs détachés.
Alors c'est effectivement une question qui est venue au vote aussi pendant la session, et c'est un des marqueurs de Laurent Wauquiez, hein, puisqu'il a toujours mis en avant cette idée de préférence régionale et de lutte contre les clandestins, contre les travailleurs détachés, contre les migrants, avec parfois beaucoup de confusion d'ailleurs entre ces différents termes. Et donc là il a présenté un texte de lutte contre les travailleurs détachés qui sur le principe pourrait être une bonne chose, hein, puisque on a tout intérêt. Alors les travailleurs détachés, en fait, c'est des travailleurs qui viennent d'autres pays et qui sont employés sur des chantiers en général, parce que c'est beaucoup dans le BTP notamment, qui sont employés sur des chantiers en France, mais sans bénéficier de toutes les protections sociales dont bénéficient les travailleurs nationaux.
Alors on l'avait évoqué une fois à cette antenne, hein, concernant par exemple la viticulture, l'agriculture.
Oui, tout à fait.
Avec des boîtes d'intérim qui sont même des fois pas dans les pays dans lesquels eux viennent.
Voilà, alors ouais. Là, c'est totalement légal. Ça fait partie des joyeusetés qui nous viennent de l'Union européenne. Et sur le principe, le fait de lutter pour qu'il y ait de meilleures conditions de travail, une meilleure protection sociale pour ces travailleurs détachés, évidemment, nous sommes pour. Sauf que là, vous imaginez bien que ce n'était pas tout à fait le propos. Nous avons d'ailleurs rappelé, c'est Andrea Cotara qui est intervenu pour notre groupe. On a quand même rappelé à Laurent Wauquiez que son groupe au Parlement européen, le PPE, le groupe de droite, avait voté des deux mains la directive Bolkestein, puis la directive sur les travailleurs détachés, sur laquelle d'ailleurs le Front National, puisque Marine Le Pen en fait aussi des caisses là-dessus, Marine Le Pen s'est abstenue, elle n'a pas voté contre non plus. Donc voilà, il faut quand même rappeler deux, trois choses. Et puis donc, il a introduit cette idée de clause Molière, qui est l'idée qu'il faudrait que ces travailleurs détachés parlent français. Là encore, pourquoi pas sur le principe, hein, on pourrait imaginer qu'il y ait des cours de français et qui soient donnés.
Sans donner les moyens du FLE pour tous les travailleurs détachés.
Voilà, exactement, qui soient donnés pour que ces travailleurs aient accès effectivement aux consignes de travail, de sécurité, à connaître leurs droits. Sauf que là, évidemment, la manière dont c'est rédigé ne va pas du tout dans ce sens-là, mais dans le sens d'une discrimination à l'embauche, tout simplement. Et en plus, avec une clause Molière qui est un pur affichage, puisque de fait, quand on regarde le texte, c'est absolument inapplicable, puisque aujourd'hui, l'inspection du travail n'a absolument plus les moyens d'aller vérifier les conditions de travail sur ces chantiers. Enfin, la dernière chose, c'est que, voilà, on a aussi rappelé à Laurent Wauquiez que le chantier du Lyon-Turin, pour lequel il est si favorable, embauche actuellement des travailleurs détachés, et nous l'avons invité à aller sur le chantier, comme nous avons été un certain nombre à le faire, pour constater qu'on est bien loin de l'application de ces consignes de sécurité et d'accès aux droits sur ce chantier du Lyon-Turin. Donc voilà, on nage en pleine contradiction et sur de l'affichage purement politicien pour continuer à draguer l'électorat de droite extrême.
C'était un petit peu la question que j'allais vous poser. Ces travailleurs détachés sont embauchés par des entreprises qui ont souvent la cote, justement, au niveau des Républicains, par exemple, ou en tout cas d'une politique de droite. Ce sont leurs amis, Vinci, Eiffage,
Bouygues.
Bouygues, voilà, pour n'en citer que quelques-uns.
Tout à fait.
Donc, c'est donner un moyen à ces entreprises, finalement, de faire une discrimination qui pratiquer un petit peu déjà ou de clairement leur dire bon bah changez un petit peu vos méthodes parce qu'en fait c'est leurs amis, c'est un peu bizarre.
En fait je crois que c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que concrètement je pense que ce texte n'aura absolument aucune influence sur les conditions de travail sur les chantiers ni sur l'embauche.
C'est un
marqueur politique, c'est un moyen de communiquer sur la préférence régionale et de donner des signaux effectivement à l'électorat de cette droite extrême et de cette extrême droite.
Bon.
C'était d'autant plus marquant pour nous, en plus que le 9 février, c'était aussi une journée d'action et de mobilisation d'une grosse campagne menée par plusieurs ONG, par plusieurs associations de solidarité, notamment suite à la condamnation de Cédric Héroux, des délinquants solidaires. Et donc le contraste entre cette mobilisation associative citoyenne des délinquants solidaires et ce qui nous était soumis au vote dans la session était particulièrement marquant.
C'est fait exprès ?
Non, je crois pas. Là, pour le coup, c'était un hasard du calendrier. Bon, nous, on était en session, donc on pouvait pas être sur les manifestations qui ont eu lieu ce jour-là. Mais on a quand même fait une action sur les réseaux sociaux, les 8 élus du groupe, avec des pancartes délinquants solidaires. Ce qui m'a d'ailleurs valu, notamment sur Twitter, d'être menacée physiquement, de recevoir...
Comment, par exemple ? On voudrait savoir ça.
Eh ben, en fait... Cette photo et ce tweet ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, sont arrivés dans l'escarcelle de ce qu'on appelle la fachosphère, et je me suis retrouvée avec du harcèlement, il faut l'appeler comme ça, avec des appels au viol et des messages menaçants à caractère sexuel, extrêmement agressif, dont un certain nombre d'ailleurs que j'ai signalé aux autorités compétentes. Certains comptes ont été depuis verrouillés. Je les garde avec d'autres dans mes dossiers concernant un certain nombre de comptes anonymes qui pratiquent de manière très régulière ce genre d'attaque, ce qui crée un climat particulièrement, je dois dire, nauséabond et assez inquiétant pour la suite.
Et donc, vous posez cette question, les délinquants solidaires aujourd'hui, gênent évidemment la fachosphère, on l'imagine, mais c'est aussi un débat qui est complètement écarté de la région, on vient d'en parler. Quel sens a cette action du coup pour vous et pour le groupe du Rassemblement ?
Au départ et de manière générale et collective, c'est de dire que porter assistance à un être humain ne peut pas être un délit.
Quelle que soit
son origine géographique, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, voilà. Juste porter assistance à un être humain dans la détresse, c'est pas un délit, c'est de la solidarité. Il y a de plus en plus de criminalisation de ces comportements d'entraide, et c'est une manière, juste de se déclarer solidaire de ces personnes qui sont aujourd'hui criminalisées, portées devant la justice, condamnées, et de dire que nous devons rentrer dans l'illégalité, nous sommes prêts à le faire. Et c'est rappeler une fois de plus la différence entre légalité et légitimité, et rentrer tout simplement dans ce qu'on appelle la désobéissance civique, parce qu'il nous semble qu'il y a des droits fondamentaux de l'être humain qui sont plus importants que certaines lois et postures politiciennes qui sont édictées effectivement pour draguer l'électorat et surfer sur les peurs ambiantes et continuer à attiser la haine.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est une manœuvre politique que de venir condamner en l'occurrence Cédric Herrou sur ce thème-là. Alors que les entreprises qu'on citait tout à l'heure sont les championnes du travail sans papier, par exemple, et
oui,
que régulièrement elles sont pointées.
Notamment, et puis pour nous, en tant qu'élus, c'est aussi une manière de rappeler que notre mandat d'élu de la République, on le met aussi au service de ce type de cause. Ça fait des années qu'il y a, par exemple, des parrainages républicains pour justement servir un peu de bouclier, en quelque sorte, à ces migrants et à ceux qui les aident. Dans notre groupe, nous avons des élus qui accueillent des réfugiés. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas en dehors de la société, et qu'au contraire, on prend notre part aussi à cette citoyenneté active, à ce militantisme, à ces actions de solidarité, tout simplement.
Quand vous vous déplacez, Corinne Morel-Darleux, à l'étranger ou dans le cadre de vos actions nationales ou européennes, en tout cas, comme par exemple Rome ou l'Espagne, là où vous allez aller ces quelques temps, est-ce que c'est des choses qui sont partagées avec l'ensemble des mouvements de cette gauche que vous représentez ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je participe effectivement aux travaux du Parti de la gauche européenne. Donc, on se réunit de manière régulière parce que je suis dans le bureau exécutif. Et la question des migrants revient à chacune de nos réunions. Parce qu'en plus, pour le coup, ça concerne l'ensemble des pays européens. Et on discute beaucoup de l'accord qui a été passé entre l'Union européenne et la Turquie, notamment. On discute beaucoup de la situation en Grèce. On discute beaucoup de ce qui se passe dans tout le pourtour méditerranéen et des enjeux géopolitiques et géostratégiques qu'il y a derrière en termes de liens aussi avec des causes moins évidentes et dont on parle moins, mais la question climatique qui provoque des sécheresses, des pertes entières de récoltes avec des déplacements de populations importants. On parle de la question de l'accès aux ressources qui provoque de plus en plus de conflits armés pour tout simplement avoir accès aux terres, au pétrole, à un certain nombre de matières premières. Donc on essaye voilà, d'avoir une réflexion qui soit un peu en profondeur. Il y a les actions d'urgence, de solidarité, et puis il y a aussi les actions politique de long terme à mener pour justement réduire les causes de migration et puis surtout faire en sorte que la guerre ne devienne pas la norme dans un certain nombre de pays qui ont le malheur d'avoir du pétrole dans leur sous-sol.
Et quand on parle de cette radicalisation ici en France, fachosphère, etc., la Hongrie est un bon exemple là, au niveau européen qui, même si c'est pas totalement facho, en tout cas est en train de se fermer. Y a-t-il des élus dans vos mouvements de là-bas ?
Oui, on a des représentants d'organisations politiques en Hongrie, dans quasiment de tous les pays qui sont représentés dans ce parti de la gauche européenne. Et puis on discute aussi avec d'autres organisations, notamment de la société civile, qui ne sont pas des partis politiques, mais avec lesquels on a des liens importants. Et puis avec voilà, des associatifs, des militants, des intellectuels, on essaye justement de conserver ces réseaux qui sont extrêmement importants, parce que c'est des pays dans lesquels... et la France n'en est pas à l'abri, hein, malheureusement,
eh oui.
Dans lesquels effectivement l'extrême droite et la xénophobie continuent de monter. Si elles continuent de monter, c'est aussi parce qu'on sait que ces mouvements-là surfent beaucoup sur la précarité, la misère et ces tentations de repli sur soi quand les choses vont mal et quand on est en galère. Donc ces réseaux-là, ils sont importants parce qu'aujourd'hui, on n'est pas majoritaire et que si on veut avoir une chance de pouvoir résister à ces vagues brunes, il faut qu'on mette toutes nos forces en commun et qu'on le fasse en dehors des frontières nationales.
Revenons, Corinne Morel-Darleux, une dernière fois sur la session du 9 février dernier à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez voté quelque chose en rapport avec ce SRESI.
Ouais. Alors,
c'est l'enseignement supérieur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est encore un acronyme comme la région en a le secret. C'est le SRESRI. C'est le schéma régional pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Donc, en gros, voilà, c'est ce qui détermine les grandes lignes de la politique régionale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
On fanfaronne. Hein. Rhône-Alpes était très première là-dessus, non ?
Oui, mais alors c'est drôle parce qu'en ce moment, la région Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne d'être la première région sur tout. La première région pour le numérique, la première région pour l'enseignement supérieur, la première région de tout. Bon, la folie des grandeurs, je ne sais pas jusqu'où ça nous mènera. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière d'enseignement supérieur et de recherche, ma camarade Émilie March qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui a défendu un certain nombre d'amendements qui malheureusement n'ont pas été retenus. Et au final, voilà, on se retrouve avec un schéma qu'on n'a pas voté parce que on est toujours dans cette logique d'adapter l'enseignement supérieur et la recherche aux besoins des grandes entreprises et non pas aux besoins de l'intérêt général. C'est ce qu'on appelle la logique adéquationniste. On savait que c'était déjà celle de Laurent Wauquiez, hein, puisque quand il parle de formation professionnelle ou d'apprentissage, par exemple, il ne repart pas des besoins des jeunes, mais des besoins des entreprises et des employeurs uniquement. Ce qui est dommage parce que partir des besoins des entreprises, quand on parle de tout ça, n'est pas en soi condamnable. Il faut évidemment tenir compte du marché de l'emploi et des besoins qui sont exprimés. Mais en même temps, si on part que des besoins exprimés et présents, on est très loin de l'esprit initial de la recherche et de la recherche de connaissances. Quand on fait de la recherche, c'est pas juste pour répondre à la question d'une entreprise. C'est parfois aussi pour faire des découvertes inattendues. C'est ce qui a permis de découvrir que le sida était un virus, par exemple. Et si on avait été dans ce type de schéma-là, on serait encore en train de chercher probablement. Donc on a plaidé pour que l'argent public continue d'aller à la recherche publique, continue à aller sur de la recherche fondamentale. Malheureusement, on n'a pas été entendu et j'espère que du côté de l'État, on pourra continuer à préserver ça dans les années qui viennent.
Les universités n'ont pas une marge de manœuvre autonome, comme on peut le croire.
Il y a une part d'autonomie vie. Et il y a une part qui reste encadrée, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose, hein, puisque on n'est pas non plus pour le fait que chaque université fasse ce qu'elle veut dans son coin. L'égalité sur l'ensemble du territoire, c'est aussi que les étudiants aient le même type d'accès au savoir, quelle que soit la ville universitaire dans laquelle ils étudient. Donc le fait que ce soit, enfin voilà, qu'il y ait un minimum de cadrage est plutôt une bonne chose. Ce qui nous semble pas aller dans le bon sens, en revanche, c'est de tout le calquer sur le besoin des grandes entreprises. Quand on regarde du côté du médicament, de la pharmacie, de la santé notamment, on a vu toutes les dérives qu'il y a eu dans le domaine des agences du médicament, etc., sur la mise sur le marché de vaccins, de médicaments, dont l'objectif était avant tout de générer des profits pour l'entreprise, plutôt que de répondre à des vrais besoins de santé publique. Moi, je préférerais, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, qu'on lutte vraiment contre la pollution atmosphérique et contre la pollution de l'air pour faire en sorte qu'il y ait moins de maladies respiratoires qui se développent, donc qu'on arrête de financer de la route à tire-larigot et que cet argent-là soit plutôt mis sur la recherche publique, par exemple.
Plutôt que pour soigner des gens malades.
Voilà. Et qu'on a nous-mêmes rendu malades en finissant, oui, en d'ailleurs, finançant de nouvelles autoroutes et en finançant pas suffisamment les trains du quotidien.
Ce qui permet d'ailleurs d'en placer une petite à chaque fois pour cette autoroute A7 qui nous demande de rouler moins vite lorsqu'on passe à côté de la centrale de Fezin. C'est toujours rigolo. C'est pas une centrale d'ailleurs, c'est une raffinerie. Vous êtes passé à France 3 il n'y a pas très longtemps?
Oui, j'ai été effectivement l'invité de l'émission Dimanche en politique sur France 3 Rhône-Alpes. C'était le 29 janvier dernier. C'est un format assez intéressant pour moi, parce que c'est un format sur lequel on a le temps de développer un peu les idées. Et puis là, c'était pas mal parce qu'en plus, ils avaient organisé un débat avec le représentant bio de la FNSEA, Rémi Fabre, qui est agriculteur maraîcher en Ardèche, donc un voisin. Donc c'était assez intéressant parce que de fait, il a développé des positions qui, à mon avis, sont pas tout à fait représentatives de la FNSEA, mais qui fait qu'il était plutôt assez d'accord avec ce que je disais par rapport notamment aux critiques que j'ai pu porter sur le plan bio de la région, qu'il a lui-même pas voulu défendre. Donc voilà, j'invite ceux que ça intéresse à aller regarder l'émission qui est disponible sur le site de France 3. On y apprend deux, trois choses, effectivement, sur l'agriculture, et puis on a abordé plein d'autres questions d'actualité régionale et nationale.
Nous l'avions abordé dans d'autres émissions, mais effectivement, la FNSEA se retrouve tête de proue pour porter la politique régionale sur l'agriculture.
Plus exactement, en fait, les chambres départementales d'agriculture, si on veut être tout à fait
exact. Pardon.
Tout à fait exact.
Mais
il
enfin,
se trouve que
bon,
ces chambres d'agriculture, à l'exception de celle du Puy-de-Dôme, sont toutes présidées effectivement par la FNSEA, avec d'ailleurs des choses qui remontent du côté du Puy-de-Dôme, puisque ça a changé de main. C'est maintenant une coalition avec notamment la Confédération paysanne qui préside cette chambre d'agriculture. Et du coup, il y a des dossiers qui émergent. Il y a une émission très intéressante de pièces à conviction, notamment avec des témoignages, là aussi, de soupçons de détournement de fonds, des adhésions à la chambre d'agriculture vers des unions locales de la FNSEA. Donc là aussi, la justice doit maintenant se pencher sur ce cas-là. Et j'espère qu'on en tirera des enseignements sur une grande vigilance à avoir maintenant que la majeure partie de l'argent régional est confiée à ces chambres d'agriculture.
Mais comme je le disais dans ces précédentes émissions, c'est quand même intéressant de, finalement, ils vont sortir du bois et on va être en vigilance sur un seul organisme, c'est peut-être plus facile, non?
Oui, sauf que malheureusement, les réseaux de vigilance sont détruits par la même occasion.
C'est vrai,
en ce moment, moi je suis beaucoup en contact avec les associations et les réseaux d'agriculture paysanne et biologique qui malheureusement sont en train de faire face à des très grosses difficultés, puisque leurs financements ont été coupés ou brutalement diminués, et avec des licenciements, des non-remplacements et tout un réseau, alors qui est en train à la fois de faire face à ces difficultés, en même temps d'essayer de se rassembler, de se fédérer. J'espère que ça débouchera justement sur un réseau plus grand, plus vaste, avec une mission de vigie et de résistance.
Passons sur quelques sujets pour terminer ce compte-rendu de mandat radiophonique Corinne Morel-Darleu. En vrac, un procès à Dax, une visite à Négawatt, la question du revenu universel.
Oui, c'est effectivement toujours pour rappeler aussi dans ces émissions que dans le compte-rendu de mandat, il y a ce qu'on fait dans l'institution. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait en dehors de l'institution. Et je crois que c'est important que les élus restent aussi des militants de terrain. Donc, moi, j'ai eu le grand plaisir, je dois dire, d'aller participer au procès contre l'évasion fiscale en soutien aux militants Jeunes Palais à Dax début janvier, qui était un chouette moment politique. D'abord parce qu'il y avait énormément de monde. Et ensuite, parce que cette question de l'évasion et de la fraude fiscale, elle est au cœur de plein de choses, hein, à la fois de la moralité de la vie publique qui est tant malmenée en ce moment, mais aussi de la question du financement de ces politiques publiques, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais la réalité c'est que si tout le monde payait ses impôts comme il le doit du côté du CAC 40, de l'argent, il y en aurait suffisamment pour financer tout ce qu'on veut faire en matière de transition écologique et énergétique notamment. Et puis j'étais aussi à Paris pour la présentation du nouveau scénario Négawatt qu'on avait accueilli ici, hein, pour leur université au centre du Martouret. Donc ça aussi c'est important parce qu'il faut s'inspirer aussi de ce qui se fait du côté justement des chercheurs, des assos, des experts. Et je crois que sur la question de la transition énergétique, Négawatt pour moi reste aujourd'hui assez indépassable en matière de sérieux et de travail sur comment on fait pour à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre et en même temps sortir du nucléaire, et en même temps faire tout ça sans qu'il y ait de régression sociale, ouais, mais au contraire de la création d'emplois et d'activités qui soient de qualité. Donc voilà, toutes ces activités-là sont des activités qui me semblent importantes de continuer à avoir et qui viennent aussi nourrir en fait ce qu'on restitue après dans le mandat au niveau des politiques régionales. Et puis j'ai aussi participé à un entretien croisé pour la revue Regard que j'ai fait avec un sociologue qui s'appelle Daniel Zamora autour de la question du revenu de base, revenu universel, allocation minimum, quels que soient les termes qu'on emploie, qui paraîtra dans le prochain numéro de Regard, donc là au printemps, et qui était un débat intéressant parce que cette question du revenu universel, après avoir suscité beaucoup d'indifférence depuis 10 ans, tout d'un coup suscite beaucoup de passion et avec des termes qui sont selon moi pas toujours posés de manière très pertinente ou très honnête, hein, et avec des visions très différentes finalement du revenu universel qui s'affrontent. Et là on a eu l'occasion de poser les termes de ce débat de manière peut-être un petit peu plus apaisée que ce qu'on peut voir à la télé ou entendre parfois sur certaines ondes radio. En résumé, moi je pense que c'est une idée qui continue à être une des rares idées encore subversives, pour peu qu'on l'amène de manière vraiment révolutionnaire et non pas réformiste. C'est-à-dire que concrètement, pour dire les choses, dans ce que dit Benoît Hamon, par exemple, du revenu universel, ce qui me pose problème, c'est pas tant ce qu'il dit que ce qu'il dit pas. C'est-à-dire que parler de revenu universel, si à côté de ça, on parle pas de revenu maximum, si à côté de ça, on parle pas de revoir de fond en comble la fiscalité, si à côté de ça, on parle pas du rapport à l'Union européenne, ça perd beaucoup de son intérêt politique. Ça devient une mesure réformiste, hein, qui n'apporte pas grand-chose, hein, et qui peut même être une régression.
Qui amène de l'argent dans le capital. Quoi, qui fait tourner un peu les finances.
Voilà, c'est un des risques. Par contre, si c'est une mesure qui est intégrée dans un vrai projet de société et dans un projet de société post-capitaliste avec ce que je viens de mentionner, là je pense que pour le coup le débat, il faut vraiment qu'on l'ait, qu'on se mette d'accord sur le principe entre gens de gauche qui partagent la même vision, et ensuite on discutera de l'application. Mais mettre la charrue avant les bœufs comme c'est le cas en ce moment, à rentrer par la question du financement, ne me paraît pas être une bonne idée quand nos anciens ont pensé à la mise en place, à la création de la sécurité sociale. Ils se sont pas posé d'abord la question du financement, ils se sont d'abord posé la question politique de l'accès aux droits fondamentaux pour tous, et je crois qu'on serait bien inspiré de reprendre leur exemple.
Eh bien, on va pouvoir conclure comme cela avec un mot sur le temps qui vous reste, justement, pour militer dans tous les sens, mais aussi pour suivre cette campagne de Mélenchon, la campagne de la France insoumise. Alors, ce ne sera pas forcément une habitude dans cette émission, mais quand même un mot donc de cette campagne que vous suivez, animée même.
Oui, oui, un mot effectivement, puisque ça fait quand même partie de l'actualité nationale qui occupe beaucoup tous les esprits, je crois, en ce moment. Donc c'est compliqué de ne pas en dire un mot. C'est clair que, bon, moi je fais partie des soutiens effectivement de Jean-Luc Mélenchon et je participe à cette campagne et je circule du coup beaucoup pour aussi apporter mon soutien un peu partout dans la région et au-delà. Je voudrais juste du coup faire passer le message que pour ceux que cela intéresse, il y a un groupe local de la France Insoumise sur le Diois qui se réunit tous les samedis sur le marché de Die et ensuite à 13h au café Andarta. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi une page Facebook et voilà, je ne ferai pas plus de prosélytisme sur cette émission, mais je crois que c'est important aussi de se saisir de cette élection qui s'annonce à haut risque.
Juste pour avoir votre avis là-dessus, pendant un moment on avait l'impression en tout cas que le mouvement derrière Mélenchon, que ce soit le Front de Gauche, le parti de gauche qui est le parti, était encore dans une logique de parti. Aujourd'hui France Insoumise propose aux citoyens de vraiment s'emparer de cette chose politique. Est-ce que vous voyez une évolution là-dessus? Ça marche, ça se fait partout.
Alors effectivement, hein, France Insoumise, c'est un mouvement donc, dans lequel sont des individus qui viennent chacun au titre de leur engagement individuel citoyen. Il y a des partis qui soutiennent, c'est le cas du parti de gauche. Il y a des gens qui viennent d'autres partis, du Parti communiste, de Ensemble, d'Europe Écologie Les Verts aussi, quelques-uns. Et puis il y a surtout beaucoup de citoyens non encartés, comme on dit, qui participent à cette campagne et je crois que c'est une bonne chose parce que ça répond à une demande qu'on entend, qui n'est pas forcément une demande anti-parti, mais qui est une demande en tout cas d'ouverture et de donner à chacun la possibilité de s'engager sans pour autant avoir à prendre sa carte dans une organisation politique. Et je crois que c'est bien de pouvoir offrir cette possibilité-là. Ça crée aussi du renouvellement, du dynamisme, et on le voit aujourd'hui effectivement dans le cadre de ce mouvement de la France Insoumise avec des groupes d'appui qui se développe et surtout, et ça c'est pour moi la chose la plus importante, avec des gens qui viennent s'engager en politique qui n'étaient pas engagés avant. Et je crois que c'est une fois de plus sur les abstentionnistes et tous ceux qui sont aujourd'hui déçus voire dégoûtés de la politique, c'est vers eux qu'il faut aller et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et si cette nouvelle forme de mouvement de la France Insoumise permet de le faire, alors c'est une excellente nouvelle pour la vie publique.
Et vous, dans ces cas-là, vous vous retirez ?
Alors, moi, je me retire pas. Je continue à faire ce que j'ai à faire en le faisant de ma place, c'est-à-dire que concrètement j'ai un mandat d'élu et je le remplis avec beaucoup d'application et de sérieux et d'assiduité. Je suis militante, je l'étais avant d'être au parti de gauche, je continue à l'être. Je suis aussi membre de la direction du parti de gauche et on continue à avoir nos activités propres de parti et d'organisation politique. Et ensuite je me mets au service de la campagne de la France Insoumise sans pour autant avoir souhaité y prendre de responsabilité.
Voilà.
Je vais là où on m'appelle en soutien, je file des coups de main, je donne des contacts, j'essaye de faciliter les choses sans pour autant chercher à occuper le devant de la scène. Je dois dire que je suis pas en manque. J'ai été 5 fois candidate en 7 ans. C'est pas une partie de plaisir, surtout quand on est dans des mouvements protestataires minoritaires. Donc je trouve très bien, je dois dire, d'un point de vue à la fois politique et humain, que d'autres puissent prendre le relais.
Merci Corinne Morel-Darleux pour cette nouvelle, ce nouveau mandat, compte-rendu de mandat radiophonique.
Merci à vous.
Et on se retrouve donc après la prochaine session régionale.
Oui, alors ils nous ont quand même, on s'était un peu étonné effectivement qu'il se passe si peu de choses pendant cette phase d'élection, puisque la prochaine assemblée plénière, c'est le 18 mai. ça fait long. Visiblement, Laurent Wauquiez a réalisé lui aussi que ça faisait long. Donc, on aura finalement tout de même une commission permanente supplémentaire, ce qui veut dire que donc moi j'aurai pas d'assemblée plénière. Hein, je fais pas partie de la commission permanente, mais par contre, on va quand même avoir de nouvelles réunions de commission en mars et avec un certain nombre de rapports qui vont passer. Donc, il est possible que nous ayons tout de même matière à se faire une petite émission au mois de mars. Je vous redirai d'ici là s'il y a des choses à évoquer sur les ondes.
Eh ben, très bien, alors on l'espère, rendez-vous en mars. Bonne suite Corinne Morel-Darleux, à la prochaine.
Merci, à bientôt.
Interview.
Ok, le beurre.
L'interview du jour.
L'interview du jour.